Bonsoir François-Olivier Gisbert.
Bonsoir.
Histoire intime de la Ve République, tome 2, La Belle Époque. On va rentrer dans le livre dans un instant. Votre premier ouvrage, dans vos bibliographies autorisées, comme on dit, et elles sont particulièrement longues, paraît en 1977. C'est la première grande biographie de François Mitterrand qui a été publiée en France. François Mitterrand ou la tentation de l'histoire au seuil. Je me souviens l'avoir lu dans ma chambre d'étudiant quand j'étais à Sciences Po Bordeaux, au village 5, sur le campus.
Ah, vous êtes vieux,
universitaire de Talence-Pessac. Ça vous donne un peu une idée de mon âge.
Ah, ouais,
voilà.
Ah, donc, ça va pas être terrible. Hein.
On va essayer de se débrouiller.
Ouais.
On apprend d'ailleurs, page 304 de votre livre, que c'est à peu près à la même époque, à l'hiver 1977, que vous êtes devenu, dites-vous, pour le socialisme, un apostat. C'est le terme que vous employez. Le deuxième épisode de votre histoire intime de la Ve République, La Belle Époque, s'ouvre, c'est moi qui le dis, c'est peut-être pas une expression que vous reprendriez, sur la libération de Georges Pompidou, entre guillemets. Cette libération, elle fait suite, en fait, au décès de son ombrageux prédécesseur, le général de Gaulle, le 9 novembre 1970. Et votre tome 2 s'achève sur les toutes premières semaines, qui sont d'ailleurs pas tristes, qui suivent l'arrivée à l'Élysée de François Mitterrand après le 10 mai 1981. 11 ans, c'est le tempo de ce tome 2. C'est bien moins en nombre d'années que la période historique synonyme, j'allais dire la vraie, la grande, la belle époque, celle qui court, je le rappelle, de l'exposition universelle de 1889 à Paris à l'assassinat de Jaurès le 31 juillet 14 au café du Croissant et à la déclaration de guerre le 1er et le 2 août. 11 années, donc, que l'on appelle la décennie 70 ou encore les années Pompidou et Giscard, et d'ailleurs. Le petit bandeau de couverture ne nous trompe pas sur la marchandise, puisqu'on a ces deux présidents qui couvrent entre 69 et 81 cette période. Alors, je reprends pas le tome 1 de votre trilogie. J'invite ceux qui nous regardent en ce moment en direct et ceux qui sont dans la salle à la fois lire le tome 1, mais aussi ça dure 1h07 et c'est une pépite. La présentation, le dialogue Gisbert Onfray. Dans cette salle pour présenter ce tome 1 il y a un an, comme on dit, comme disent les jeunes, c'est collector, c'est un grand moment. Alors dès la première...
Il n'est pas venu, j'imagine c'est Pompidou ou Giscard, ça l'intéresse moins.
Bah, vous lui poserez la question.
Oui,
dès la première ligne de la première page du présent livre, vous posez une question que tout le monde se pose à partir du 29 avril 69, jour du départ de Gaulle, de l'Élysée à midi, comme on dit. Puis le 10 novembre 1970, en apprenant son décès, la France va-t-elle survivre après lui? Et vous avez cette phrase, toujours dans la première page, « Après la mort du général, on se sentait pupille de la nation. » Et page 13, vous écrivez, « Avec le décès, après le décès du général, le ciel est tombé sur nos têtes. C'est comme si nous étions devenus orphelins d'un père tyrannique et foutraque. On aurait dit que la guerre avait été déclarée. » Fin de citation. Et j'ajouterais que tout le monde a en tête cette fameuse phrase du président Pompidou, « La France est veuve ». Alors, ma première question est celle-ci. Malgré le fait que le pays était à la renverse, c'est vous qui le dites, vous nous dites aussi que la France se sentait très forte au sortir de ses 11 ans avec De Gaulle. Et je vous cite encore, « La France semblait quasiment une et indivisible ». Pourquoi, selon vous ?
Eh ben, il faut revenir, là on revient sur le tome 1.
Oui, parce que ça préfigure la suite.
De Gaulle arrive en 1958, avec énormément de fourberies, en faisant croire qu'il va faire l'Algérie française, donc en étant soutenu par les généraux Algérie française, appelé au pouvoir par Salan. Bon, on sait quelles vont être les aventures entre De Gaulle et Salan par la suite. Et Salan qui s'est fait évidemment avoir, qui a été abusé, poussé d'ailleurs en cela par Massu, qui était lui-même aussi Algérie française, mais avant tout gaulliste. Donc il y a une espèce il y a ce qu'on appelle le coup d'État du 13 mai, qui n'est pas vraiment un coup d'État, mais une idée de coup d'État qui va peut-être se faire, mais qui ne se fait pas. Et De Gaulle arrive pour empêcher ça. Et à partir de là, il change tout très vite. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que, vous savez, il y a toujours l'idée des 100 jours. C'est un vieux... L'idée de... Il y a eu un livre là-dessus, d'ailleurs, de Milton Friedman, absolument extraordinaire, le prix Nobel d'économie, qui expliquait que pour vraiment changer la nature d'un pays, d'une politique, un nouveau président, un président élu ou une présidente, doit le faire dans les 100 jours, en 3 mois, très, très vite. Et il cite des exemples d'hommes d'État ou de femmes d'État qui ont complètement chamboulé la politique de leur pays. Bah, ils l'ont fait en 100 jours. Et parmi ceux-là, ils citent Ronald Reagan, dont il était proche, Margaret Thatcher, dont je crois qu'il était moins proche, François Mitterrand, dont il n'était pas proche, et Franklin Roosevelt, qui, eux, ont fait leur réforme tout de suite.
Mais ils ne citent pas de Gaulle.
Mais ils ne citent pas de Gaulle, j'ai jamais compris. Je pense qu'il n'avait pas bossé assez.
Vous l'avez dit.
Bah, même si c'était un savant, un grand économiste, mais ils ne citent pas de Gaulle, c'est toujours très bizarre. Ouais. Parce que de Gaulle, c'est le modèle même. C'est-à-dire, ça va très vite. Alors, il y a, par exemple... mais c'est extraordinaire, parce que la France est par terre quand il arrive au pouvoir. C'est des déficits partout. La menace de guerre civile. Vous voyez, quand on dit, aujourd'hui, c'est foutu, on va pas y arriver, la France... Mais non. Regardez, en quelques décisions, en quelques... J'irais presque quelques semaines, on peut même... Bon, on peut aller jusqu'à quelques mois, mais enfin, en pas très longtemps, il a tout remis d'aplomb. C'est absolument extraordinaire. Regardez, alors, quelques exemples, simplement. La nouvelle Constitution. Bon, il y avait un problème en France, vous savez très bien, avec les gouvernements qui changeaient tout le temps. On change la Constitution. La Constitution, il s'en occupe même pas. C'est-à-dire, Michel Debré, qui est son garde des Sceaux, est chargé de faire une nouvelle Constitution à partir de son discours de Bayeux fondateur, après la libération de la France, enfin, en Normandie, après les batailles de Normandie. Il a fait ce célèbre discours de Bayeux, donc à la libération, où il explique comment la France doit être gouvernée, avec quel type de Constitution. Ça va pas très loin. Il y a quelques... Donc, il y a une grande liberté, et de toute façon, la Constitution de la Ve République reste très floue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle résiste, qu'elle a résisté, hélas, malgré quelques petits changements malheureux qu'on a pu faire. Et cette Constitution, elle est faite en un mois avec des opposants qui ont rejoint le gouvernement, mais qui sont dans l'opposition. Guy Mollet, Pierre Flimelin, etc. Mais qui font partie de cette commission. Elle s'est faite en un mois. On vote en septembre. Il y a le référendum. Et De Gaulle, d'ailleurs, la lit même pas, parce que De Gaulle délègue. Et c'est pas Macron ni d'autres présidents. C'est quelqu'un qui délègue tout. C'est-à-dire, voilà, il a confiance en Debré. Allez, faites-moi la Constitution. Et il lit la Constitution, je crois, le week-end avant qu'elle soit présentée officiellement, etc. Et il pète les plombs parce que Debré a accepté que... dans le préambule de la Constitution, les droits de l'homme soient reconnus comme étant supérieurs à la Constitution. Et De Gaulle dit, il n'y a rien qui est supérieur à la Constitution, à la représentation populaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qui a fait ça, etc. Il est très en colère. C'est raconté par le fils du général De Gaulle, l'amiral Philippe De Gaulle, qui raconte voilà, une colère mais absolument sismique, parce que ce qui montre simplement qu'il n'avait pas lu, vous voyez, qu'il avait fait confiance, parce que c'est comme ça que ça marche, De Gaulle. Les gens avaient dit, vous faites ça comme dans une entreprise d'ailleurs. Ce que c'est pas comme ça que la France est gouvernée aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis alors, ça va plus loin. Je faisais toutes les réformes qui ont été faites. Il y a surtout la plus extraordinaire, mais ça, c'est venu à la fin de l'année 58. D'ailleurs, au bout de 5 mois, si on regarde bien, ou peut-être un peu plus, 6 mois, il y a cette espèce de plan Rueff qu'on appelle le plan Rueff. Qui est un plan barre puissance 1000, quoi.
Il va même jusqu'à réduire les pensions des anciens combattants. C'est
une violence qui sont vendus. L'économie est par terre, donc il dit voilà, on va faire ce plan. Un truc, tout le gouvernement est contre, sauf De Gaulle, sauf Michel Debré, qui est son homme de main, et Maurice Couve de Murville, son autre homme de main, qui est ministre des Affaires étrangères. Tout le monde est contre. Le conseil des ministres qui s'est réuni, je crois, à 15h, à 23h, ils sont tous en train de s'engueuler. Et ils engueulent De Gaulle et deux autres qui tiennent. Et De Gaulle tient parce qu'il est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Et le résultat, c'est vrai qu'après ce plan de rigueur, la France connaît des croissances à 6% comme en Chine aujourd'hui. La France explose économiquement. Et donc, tout ça, il a fait très, très bien.
Pardon, est-ce que c'est ça qui rend la France forte et sûre d'elle-même?
Oui, je crois qu'il a redonné confiance. C'est-à-dire que, vous savez, De Gaulle, il a fait, on peut dire, c'est quelqu'un de roué. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire un numéro autour de De Gaulle, l'homme qui a sauvé la France. C'est beaucoup plus compliqué que ça, si on regarde les choses. Mais c'est quelqu'un qui sait remettre les choses en ordre. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire de penser que la France, qui était complètement par terre en 1958, on peut dire qu'à partir de... Et mal, avec, évidemment, le problème de la crise, la guerre d'Algérie, qui faisait qu'il y avait des risques, évidemment, maximum, y compris sur la paix civile, quoi, parce qu'on était toujours un peu en menace de guerre civile. Il y avait ce faux coup d'État le 13 mai 58 qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Mais ensuite, il y a eu le putsch des généraux en 1961, qu'il a démonté, d'ailleurs, avec une grande violence, avec des déclarations télévisées, qui ont un peu terrorisé tout le monde. Et puis, bon, le truc... Si vous voulez, donc... ce que je veux dire, c'est que rien n'est jamais foutu. Comme disait toujours, la France a été refaite, régulièrement refaite. Elle a tout le temps été enterrée, elle renaît. Donc, ce que je veux, c'est le message, disons, en tout cas du tome 1, c'est que, parce que si on évidemment, quand on lit ces livres, on pense à aujourd'hui, bah, c'est que rien n'est jamais perdu. C'est, les vrais déclinistes sont ceux qui veulent pas voir les problèmes et qui veulent pas les traiter.
Alors, on avance sur le tome 2, oui, en particulier sur le successeur de Gaulle, sur Pompidou. Vous montrez très bien que cet homme qui va encore, qui détient encore le record de longévité à Matignon, 6 ans, 2 mois et 26 jours, puisque personne n'a été plus longtemps que lui, avec De Gaulle, ça se passe, on peut presque dire, de plus en plus mal. Je vous cite, dès octobre 67, c'est-à-dire après ces législatives du printemps 67, où la FGDS a failli cartonner la majorité...
À quelques voix près.
À une voix près de majorité, hein.
Peut-être un peu plus parce qu'il y avait des centristes.
Oui, parce que ça se baladait, mais en tous les cas. Et comme Giscard était pas très clair,
oui,
parce qu'il était vexé d'avoir été
éjecté en 66, oui.
Disons que c'était un peu tendu pour la majorité gaulo-pompidoudienne, comme on disait. Et De Gaulle dit à Focard, vous utilisez beaucoup la somme des 5 tomes des mémoires de Focard. Vous dites, il y a tout dedans, mais il y a des pépites extraordinaires. De Gaulle, alors,
c'est intéressant, c'est parce que je vous interromps là-dessus, parce que les mémoires de Focard, dont ces 5 tomes, c'est illisible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inintéressantes, notamment tous les rapports de Gaulle avec les chefs d'État africains. Il passe son temps avec les chefs d'État africains, on le voit, d'ailleurs, on en voit tous les jours, quoi. Et puis c'est bon, parce qu'il est De Gaulle un tropisme africain, faut jamais oublier. Hein. Il adore notamment, il y a quelque chose qui est très important dans la vie de De Gaulle, c'est Dakar. Il a pensé à suicider après l'épisode de Brazzaville.
Et puis,
bien sûr. Mais l'épisode de Dakar, il a vraiment failli se suicider.
Exactement.
Et puis après, il arrive à Douala, au Cameroun. Il est accueilli comme un roi, accueilli par des foules en délire. Il y a quelques blancs, mais c'est que des noirs. Et il a gardé ça toujours dans sa tête. Et il se dit toujours qu'il est devenu De Gaulle vraiment à Douala, parce que ces gens, ils applaudissaient De Gaulle. Pas seulement... parce qu'il y avait un petit côté aussi des colonisateurs. Ils étaient c'était plus compliqué que ça, quoi. Ils applaudissaient pas le colonisateur, ils applaudissaient l'homme qui allait peut-être les libérer demain. Enfin bon, donc il y a ce tropisme très fort, donc il passe sa vie. Et ce que je veux dire sur Focard, c'est que bon, j'ai lu tout ce qui a été écrit sur De Gaulle, les mémoires, c'est formidable. Vous avez des mémoires qui sont jamais exploitées, comme celle de Debré, où il y a des souvenirs, des choses très fortes, vraiment des scènes merveilleuses. Mais Focard, c'est tout est vrai parce que c'est la différence des autres. Focard, il voit De Gaulle tous les jours une heure. C'est somme toute l'homme qui était le plus proche de De Gaulle, qu'il connaissait le mieux. Ce qui montre la nature de De Gaulle, parce que Focard, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, très habile, très malin. Et en même temps, c'est aussi l'homme des bas œuvres. Pas seulement, faut pas dire ça, mais c'est aussi l'homme des bas œuvres. Donc, vous voyez, les conversations n'étaient pas tristes. Ça, c'est pas dans les mémoires. Mais quand il sort du bureau de De Gaulle, avec qui il passe une heure, il prend son magnétophone. Au bout d'un certain temps, il le fait pas au début, il le fait pas en 58, ni en 59, ni en 60, ni en 61. Devinez pourquoi? Parce que c'est la guerre, notamment avec les partisans de l'Algérie française. Et là, il y a beaucoup d'opérations homo contre les gens de l'Ouest. Et bien entendu, par question que ça se retrouve dans des bouquins. Donc, ou s'il l'a fait,
que les opérations
tout ça a été détruit.
Service secret, c'est l'élimination de la neutralisation physique de personnes.
Voilà, absolument.
Homicide. Hein.
Mais il y a eu ça, que c'était Focard qui était chargé de ça avec Alexandre Sanguinetti, dont bien De Gaulle a toujours essayé de faire un ministre.
Ouais.
Et Pompidou a toujours refusé.
Ouais.
Ben, bon. Et pour cette raison-là, parce que Sanguinetti, que j'ai souvent rencontré quand j'étais jeune journaliste, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire, exceptionnel. Mais bon,
il se battait beaucoup avec les pensions qu'il devait verser consécutivement à des divorces qui n'étaient pas simples.
Oui, oui, parce que bon, il avait une vie, il avait une jambe de bois, et voilà, c'est bon, il avait ça.
Pour revenir à Focard,
quand il sort du bureau du général, avec lequel il passe une heure tous les soirs, il dit que sur son magnétophone ce qui s'est dit. Donc, et il a laissé tout ça en plan.
Alors là,
ça n'a pas été repensé, réécrit après, vous voyez, parce que Perfit, il a refait.
Et là, par exemple, en octobre 67, attention, tenez-vous bien, il dit à Focard, à propos de Pompidou, il n'a pas de couilles, et ça, on n'y peut rien, c'est maintenant décidé, Pompidou, c'est fini, c'est fini. Alors on retrouve le langage. Le corps de garde de De Gaulle qui avait
un langage
d'officier,
de cavalier. Ah, il est toujours, je suis entouré de nuques, enfin des
phrases. Oui, exactement, voilà. Mais En fait, il reproche à Pompidou de pas être tranchant, de pas être assez dur.
Il a une phrase de Gaulle qui est extraordinaire, c'est « gouverner, c'est être dur ». J'adore cette phrase, parce que c'est vrai. Gouverner, parce qu'il rajoute quelque chose, ça c'est dans le Focard, mais qui est tellement juste. Et ça, quand on est patron d'une PME, on le sait. Hélas, on ne le sait pas toujours quand on est président, suivez mon regard. Mais il disait toujours, être président, c'est dire non, 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 non. Et c'est ça, je redis exactement comme il s'est écrit, c'est trois fois non derrière. Être président, c'est dire non, non, non. Et je pense que certains présidents qui disaient beaucoup non, comme de Gaulle, Barre, qui n'a jamais été président, mais qui était bizarrement un premier ministre populaire aussi, c'est des gens comme ça qui disaient non. Et je pense que les peuples, ça peut les lasser au bout d'un certain temps, mais j'aime bien aussi de temps en temps les gens qui leur résistent au nom de l'intérêt supérieur de la nation.
Alors, dans la partie, on va dire, 68-69, quand Pompidou, à partir de juillet 68, n'est plus Premier ministre, quand il est remplacé par Maurice Coupe de Murville, jusqu'à son élection à la présidence en juin 69. Là, il y a à peu près une période de 10 mois. Et là, on va voir, c'est la détérioration profonde des relations, si tant est qu'elles étaient, on va dire, convenables après mai 68, après les événements de 68, entre De Gaulle et Pompidou. Et il y a un épisode, vous en parlez dans le livre, qui est certainement en mémoire de beaucoup de gens qui nous regardent, c'est ce fameux épisode, l'affaire Markovic. C'est pas rien, cette histoire. J'ai retrouvé, mais vous n'en parlez pas dans le livre, mais ce film d'André Cayatte, « Il n'y a pas de fumée sans feu », avec une distribution remarquable, hein, Michel Bouquet, Annie Girardot, Fresson, co-scénariste Pierre Dumayet, quand même, c'est pas rien, hein, adapté de ce film, quoi. Qu'est-ce que c'est, cette histoire Markovic? Parce que De Gaulle va être dur sur Pompidou aussi à l'occasion de cette affaire.
Bon, alors il faut voir d'abord, je ne fais pas l'interprète de De Gaulle, mais c'est vrai que les relations sont très dégradées à ce moment-là, puisque en mai 68, il y a eu une sorte de un affrontement qui n'a jamais été direct entre De Gaulle et Pompidou. Pourquoi? Parce que De Gaulle voulait la dureté et Pompidou a fait les accommodements. Et De Gaulle accusé, ça c'est dans le livre d'ailleurs, mais il y a des phrases horribles sur Pompidou, à force de céder, notamment sur l'affaire de l'ouverture de la Sorbonne, céder aux gauchistes.
Et Grenelle.
Oui, et Grenelle également. De Gaulle était toujours très réservé sur les deux choses. Il accusait en fait Pompidou d'avoir fait monter le mouvement en cédant. Régulièrement, on sait qu'il y a plusieurs façons d'arrêter un mouvement. C'est en général soit de négocier, soit d'être dur et ferme. Bon, et De Gaulle était pour la méthode dure et ferme. Alors, bon, c'est vrai qu'il allait parfois un peu loin, c'est-à-dire plusieurs fois en Conseil des ministres, il a dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour tirer sur les étudiants?
Dans les jambes.
Non. Dans un deuxième temps, comme il voit que ça n'a pas un grand succès, il dit, mais il n'y a qu'à tirer dans les jambes. Tout le monde regarde ses chaussures. J'ai mes grosses chaussures parce que je suis allé on est en Normandie, je crois. Non, c'est pas ça. On est où là? Parce que ça pleut bien. Hein, c'est souvent Bordeaux. Je viendrai avec mes bottes la prochaine fois parce que c'est bon. Et donc, il revient deux trois fois comme ça dans des conseils sur mais qu'est-ce qu'on attend? Mais attendez, si les policiers veulent pas tirer, mais donnez-leur de l'agneau, comme on faisait en 14-18. Puis allez hop, ils ont qu'à tirer en l'air, puis après de sommation, on peut pas ils tirent dans les jambes, effectivement. Et là, il n'est pas suivi là-dessus, évidemment. Mais ça, c'est le côté De Gaulle. Est-ce qu'il est bon? Certains biographes vont le prendre au premier degré. Mais moi, j'ai eu les clés pour De Gaulle parce que quand j'étais jeune journaliste, j'étais sensibilité de gauche quand j'étais dans les années 70. Mais je dois dire que, à force de rencontrer des gaullistes, j'étais au Nouvel Observateur à l'époque. C'est vrai que j'étais fasciné par certains gaullistes, par exemple Pierre Messmer, qui est une sorte de héros de la Deuxième Guerre mondiale,
vous le qualifiez de multi-héros.
C'est incroyable, quoi. Il traverse les lignes ennemies pour ramasser. Revenir avec le cadavre d'un ami, enfin avec 3-4 types, enfin d'autant de choses qu'il n'a pas raconté, mais tout ça, c'est un personnage absolument légendaire, et puis d'autres aussi. Mais Messmer m'avait donné une clé parce qu'il a bien connu De Gaulle, il était quand même son ministre de la Défense pendant près de important ministre des Armées pendant près de 10 ans. Et il disait, De Gaulle, il faut jamais le prendre au premier degré. Il dit des trucs, il essaie de voir nos réactions. Donc il disait, mais ça veut dire quoi, par exemple, le truc des gens? Ben, oui, il trouve qu'il faut réagir, mais s'il veut qu'on réagisse, ben, il va donner l'ordre, il va le faire, il va le décider. Non, c'est juste pour voir, et c'était un peu son système, son fonctionnement, son mode de fonctionnement. On voit très bien, il dit souvent des conneries pour voir comment ça réagit. Donc c'est pas fondamentalement important, je veux dire, il a pas donné l'ordre, puisque s'il avait voulu donner l'ordre, il l'aurait donné, et ça aurait été fait. C'était juste peut-être histoire d'emmerder son ministre de l'Intérieur, qui l'énervait, parce que le ministre de l'Intérieur, il le trouvait un peu...
Oui, Roger Frey.
Non, c'était à l'époque Christian Fouché,
après,
en mai 68, oui, et il le trouvait, comment dire, un peu mou du genou, et donc il était, voilà, il essayait un peu de...
Qui était pourtant un
gaulliste, gaulliste, et il avait raison, d'ailleurs, dans cette affaire, parce que je pense qu'il a bien géré mai 68, enfin, bon, voilà, parce que des incidents, enfin, la mort d'un étudiant, à mon avis, ou de deux, trois étudiants, je pense que ça aurait plutôt relancé le mouvement au lieu de...
Sur Pompidou, et après que Pompidou ait quitté le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, par exemple, sur l'affaire Markovic, De Gaulle dit fallait pas traîner avec les acteurs, fallait pas qu'il y ait l'idée d'aller chez Delon. Enfin, il reproche à Pompidou d'être imprudent.
Oui, parce que De Gaulle est énervé par les sorties permanentes de les mondanités de Pompidou. C'est De Gaulle n'est pas mondain. Il reçoit un peu, de temps en temps, il reçoit l'Élysée. Sinon, il dîne avec sa femme, son épouse, en tête-à-tête tous les soirs, quand il n'y a pas de sortie. Et puis, à 10h30, coucou, je panier. Alors, peut-être qu'il y a un peu, il a des insomnies, mais c'est, voilà, c'est très plan-plan. Et c'est vrai que Pompidou, lui, adore sortir, est un mondain, dans le sens... dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire... d'où la fréquentation d'Alain Delon, qui dit qu'il n'a vu qu'une fois, mais c'est vraisemblablement beaucoup plus... Donc, il y a cette affaire, effectivement, du garde du corps, d'homme à tout faire, de Delon, qui est retrouvé mort dans une décharge publique enroulée dans un matelas. Et il se trouve être que ce matelas, d'ailleurs, il manque la marque du matelas Tréca qui a été retirée. Et quand on va fouiller chez les gens, on va découvrir que un ami d'Alain Delon qui s'appelle François Marcottini a un matelas dont il a également enlevé les étiquettes, ce qui est très étrange parce qu'ils ont vu 100 personnes, je crois, ils ont vu les matelas de 100 personnes et c'est les seuls matelas dont on a retiré les étiquettes. Donc il y a effectivement des forts soupçons qui pèsent sur ce Marcottini. Il y avait un problème avec ce Markovic, c'est qu'il avait été l'amant, paraît-il, une seule fois de Nathalie Delon. Ouais. Et donc, la thèse au départ qui prévaut, c'est plutôt que il aurait été tué par Delon parce qu'il couchait avec sa femme. C'est grotesque puisque Delon et sa femme étaient en train de se quitter. Donc, je vois pas pourquoi il aurait fait ça. Vous voyez, ça, donc ce mobile-là est absurde. Mais très vite, il y a une autre thèse qui commence à pousser, c'est le mobile de
chantage
parce que Madame Pompidou participerait à des parties fines et Markovic aurait pris des photos et ferait chanter des gens. Bon, le problème, évidemment, des photos qu'on voit sont des montages, et des montages assez grossiers et mal faits, je ne sais pas par qui, mais tout ça est grotesque. Et disons, la rumeur prend, puisque je pense qu'il y a une partie, je pense qu'il y a même des gens qui continuent à croire encore à cette histoire, qui est plus qu'improbable. Mais De Gaulle, là, vous avez tout à fait raison, ça revient régulièrement, mais qu'est-ce qu'il allait foutre, ces soirées, avec ces gens-là? Pour lui, l'idée, quand on est au pouvoir, il y a une sorte de... C'est un sacerdoce. Vous savez, De Gaulle, c'est le fils de Richelieu, quoi. Il y a une forme de sacerdoce dans le pouvoir... Et donc, ça implique toute une série de règles et qui trouvait-il Pompidou ne respectait pas. Mais vous me direz, ça ne gênait pas quand Pompidou était son homme à tout faire avant d'être à Matignon. Et quand, au début, à Matignon, ça marchait très bien entre eux.
Toujours est-il
disons,
que Pompidou...
Il a commencé à s'énerver quand il... Il trouvait des tas de défauts sur la fin, mais c'était la fin de leur histoire.
Et toujours est-il que Pompidou en conçoit, évidemment,
une grande amertume,
un grand chagrin vis-à-vis de sa femme, une grande amertume,
il sort son flingue avec la célèbre déclaration de Rome, je suis candidat, si j'ai un destin national,
et si Dieu le veut,
et ça, évidemment, ça influe beaucoup sur le résultat du référendum en 1969, parce que De Gaulle est populaire, pour beaucoup de gens, c'est lui qui a réglé mai 68,
Pompidou est populaire,
Pompidou est très populaire, et d'ailleurs, dans les sondages, c'est incroyable, mais pour beaucoup de Français, c'est lui qui a réglé le problème de mai 68, ce qui n'est pas absolument évident non plus, parce que bon, il a certainement joué un rôle positif, mais je pense que à deux, ils se sont bien entraînés, quoi. La petite sortie de Gaulle à Baden-Baden a joué un rôle, même enfin, rétrospectivement, je suis pas sûr qu'il sans doute avait-il fui, mais enfin, en tout cas, il est revenu et ça a joué un rôle absolument de cristallisateur, absolument très très puissant.
Alors, Pompidou arrive à l'Élysée. Là, vous dites la France connaît une période de croissance absolument incroyable. Hein, vous dites
le 55 de Gaulle, parce que 68, c'est il n'y a que dans ces périodes-là, c'est pas que dans ces périodes comme aujourd'hui qu'on peut faire des grands monomes,
exactement, voilà.
Comme ça dans toutes les villes de France. C'était,
mais il
ça marchait tellement bien l'économie qu'effectivement,
alors on parlera de la fin de Pompidou, bien sûr, c'est tragique, mais il y a un premier ministre, alors je retrouve mes notes, qui est quand même un personnage qu'on connaît bien évidemment à Bordeaux, même si maintenant les Bordelais pas persuadés que les plus jeunes, hein, celui qui a été maire de Bordeaux de 48 à 95, il est maintenant un peu trop longtemps, peut-être, oui, c'est ce qui se dit de manière un peu commune. Toujours est-il que vous aimez bien Chaban.
Oui.
Vous rappelez que le...
Vous savez, Chaban, il y a quelque chose, c'est, on voit ça souvent, c'est quelqu'un qui du pratiquement jamais du mal des gens.
C'est ce que vous dites.
C'est pour ça qu'on le prend pour un con.
Permettez-moi de lire là.
Moi-même, dit beaucoup de mal des gens dans mes bouquins, en tout cas, je pense que je ne suis pas non plus forcément très intelligent pour ça.
Oui, mais on ne vous prend pas pour un con du tout.
Parce que je dis du mal. Mais c'est vrai que Chaban, lui, disait toujours. Il disait du bien. Enfin, c'était quelqu'un de vraiment de très agréable. Moi, j'aimais beaucoup Chaban.
Vous rapportez.
Il parlait librement.
Vous rapportez un propos de Mitterrand. Mitterrand, qui le connaissait très bien.
L'aimait beaucoup. Oui, parce que j'avais dit à Chaban que j'avais voté. À Mitterrand, j'avais voté Chaban en 1974. J'avais voté au premier tour Chaban parce que je trouvais c'était pas juste le sort qui lui était fait. Tout ça.
Réponse de Mitterrand ou commentaire de Mitterrand, c'est page 187 après le premier tour de 1974. Il ne méritait pas un score aussi bas. Bon, je rappelle quand même, tout le monde le sait, mais que Mitterrand et Chaban se tutoyaient, c'était quand même
assez rare. Il s'aimait bien.
La petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai, dit que c'est même Mitterrand qui aurait présenté Micheline Chaban-Delmas à Chaban, hein, à Chantaco, à Biarritz. Bon. Et poursuite de Mitterrand, à vous. Après tout, peut-être que j'aurais voté pour lui si je n'avais pas été candidat moi-même. C'est un homme bien, vous savez. Alors, attention, Mitterrand pur sucre, mais ça ne se voit pas. Quoi qu'il dise, ça a l'air faux. Même quand il est sincère, ce qui est souvent le cas, c'est extraordinaire.
Ouais.
C'est une sorte d'inversion du certificat de sincérité. Et vous dites que le canard enchaîné l'appelait charmant Delmas.
Oui, mais ça lui allait très bien parce qu'il était charmant.
C'est parce qu'il n'était pas méchant, qu'il a suffisamment méchant qu'il n'a pas réussi la magistrature suprême.
Je crois, ouais. Ouais. Moi, je crois que c'est sans doute pour ça que je l'aimais, parce que je savais que c'était cuit. Moi, j'ai toujours eu un gros fait, par exemple, Brocard, c'est pareil. C'est des gens, ils sont gentils. Oui. Or, pour faire la politique à ce niveau-là, il faut savoir tuer.
Juppé, vous l'avez bien aimé aussi, alors ?
Ouais, aussi. Oui, c'est la même école. Juppé, il n'est pas méchant. Il est gentil. Vous savez, c'est le fond. Je parle du fond quand je dis ça. C'est pas... Parce que parfois, il faut être dur. Juppé, c'est un type pressé, énervé, parce que les gens ne vont pas aussi vite que lui. Moi, mon cerveau est beaucoup plus long que celui de Juppé, donc je vois bien... Même quand je parlais avec lui, les conversations qu'on peut avoir, il est vite énervé parce qu'on est un peu lent. Bon, ben lui, ça va trop vite. Moi, je peux pas suivre. Mais Juppé, il est quand même, il va pas vous tuer pour ça. Vous voyez, c'est pas Mitterrand, c'est pas Chirac, c'est pas Giscard. C'est quelqu'un qui, comme Rocard, il fait beaucoup penser à Rocard d'ailleurs. Et il y a quelque chose de gentil. Et d'ailleurs, il a même une façon de, par rapport aux autres, vous voyez, c'est quelqu'un qui. Il voulait être président de la République, mais à ce moment-là, il aurait, par exemple, dû quitter Bordeaux, et puis pour se consacrer qu'à ça. Mais en fait, il gardait tout, et sans doute parce que ses attaches à Bordeaux, c'était important, il voulait pas laisser les gens tout seuls, il disait « Ah, si je laisse Valade, peut-être, oh, ben, ça va pas le faire, il risque d'être battu. » Il y avait un côté fondamentalement comme ça, gentil. Et donc, il accumulait des postes, et il courait d'un truc à l'autre, il était toujours pressé. Ça, c'est ce que je dis, mais c'est vrai que c'était un type. Vous déjeuniez avec lui, c'était charmant, ça, pendant une heure. Et brusquement, il partait en courant parce qu'il était en retard. Il avait un avion à prendre. Enfin, il avait trop d'activités. Mais je pense qu'il avait aussi trop d'activités parce que, justement, c'était pas le grand alligator qui va être tout seul dans sa mare et qui attend le moment. Enfin, ces grands fauves qui sont. Les alligators ne sont pas des fauves.
On va reparler d'un certain nombre de personnages parce qu'il y a une galerie de portraits extraordinaire dans votre livre. Je pense évidemment à Mitterrand, mais on va y revenir un peu plus longuement. Edgar Faure, c'est extraordinaire. Enfin, c'est vous dites que c'est un chou lapin,
complet
en permanence.
Il avait organisé son bureau pour
à la Sée, enfin,
oui, parce qu'il adorait sa femme, et Lucie, donc il fallait le prévenir. Lucie Faure, qui est une grande dame d'ailleurs, il était très amoureux d'elle. Quand après sa mort, il était complètement défait, mais c'est vrai qu'il avait besoin de pouvoir sortir les personnes qui étaient avec lui si jamais, très rapidement, au cas où Lucie est arrivée, parce qu'elle était tout près du bureau. Donc il avait fait des tas d'aménagements intérieurs, si vous voyez ce que je veux dire, des placards, des sorties, etc. Et si vous voulez, moi, ce que j'aimais, alors parce que on dit beaucoup de choses sur Edgar Faure, mais ce que j'ai aimé chez lui, c'était la culture démente. Le nombre de choses qu'il avait lues, qu'il savait, c'était vraiment un grand intellectuel. C'est-à-dire, alors on dit avocat d'affaires, sinon affairiste, etc. Mais moi, j'ai le souvenir, quand vous étiez dans son bureau, il y avait toujours une table pleine de livres, et puis ces livres, c'était des livres annotés, on voyait qu'il les lisait, il était passionné, puis vous... c'était un grand lecteur, comme d'ailleurs Mitterrand. C'est des gens c'était une époque, si vous voulez, où en politique, vous aviez des personnages d'une culture folle. Ce que j'aurais pas dit de Chaban. Chaban n'était pas quelqu'un de cultivé. Mais des gens comme Edgar Faure, c'était complètement dingue.
Alors, on va parler de l'ambiance quand même de cette année 70, parce que c'est quand même tout à fait extraordinaire. Il y a à la fois... du point de vue intellectuel, idéologique, des moments et des séquences extraordinaires. Il y en a un sur lequel vous avez vraiment la dent dure, c'est Jean-Paul Sartre.
Oui.
Votre maman, professeure de philo, avec qui vous avez une relation extrêmement forte, très
fusionnelle, oui, complètement. D'ailleurs, elle n'est pas morte parce que je suis toujours avec elle.
Elle l'appréciait, mais elle dit de lui parce qu'elle
était gentille.
Elle dit, il pense faux, et il a plein de complexes, mais quand on le connaît, il est charmant. Et puis vous lui répondiez aussitôt,
comme Hitler,
Staline aussi pouvait être charmant. Voilà. Et au sujet de Sartre, page 98. Après avoir rappelé tous ces non-états, ce non-état de service dans la résistance, vous avez cette expression qui est quand même assez remarquable, un intellectuel désengagé sous l'occupation, vous écrivez, attention, c'est cash, comme disent les jeunes, je le hais, je vous cite, je le hais, Fouquier-Tinville du tribunal pénal international du café de Flore, il sent la mort et avec sa cour d'idolâtre effusant, dégage de mauvaises ondes. Alors là, moi, j'ai une question à vous poser et j'appelle au grand témoin que vous êtes. Comment est-ce que vous expliquez la fascination intellectuelle de ce type qui est quelque part un plagieur d'Heidegger, lequel Heidegger est quand même adhérent à NSDAP en 33. Comment vous expliquez la fascination de cet homme au point que De Gaulle, à qui on ne la fait pas, à qui ne se fait pas avoir, dit quand même un perfide au moment des porteurs de valises et du réseau Jeanson, On ne met pas en prison Voltaire au sujet de Sartre. C'est-à-dire que même De Gaulle respectait Sartre.
Est-ce qu'il respectait? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il pensait que c'était peut-être une erreur politique. Moi, je ne suis pas sûr qu'il le respectait. Vous savez, moi, je suis très étonné par le succès de ce deuxième tome, parce que je pensais que le premier, je savais que ça marcherait bien. Le troisième, je sais que ça marchera fort parce que bon, j'ai tellement d'éléments, j'ai tellement d'archives, de trucs.
Sur Mitterrand, Chirac. Hein.
Oui, c'est ça, et puis même encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en revanche, celui-là, j'y croyais pas beaucoup. C'est vraiment l'éditeur qui m'avait poussé à le faire, et je sais pourquoi. En fait, je vois bien parce qu'il y a pas mal de gens qui m'arrêtent dans la rue, c'est la même chose. Je crois que j'ai dit en fait ce que il fallait dire. Enfin, que beaucoup de gens attendaient qu'on dise enfin sur Sartre.
D'accord.
Sartre est un escroc intellectuel. Et moi, personnellement, j'en ai assez d'entendre dire, par exemple, qu'il n'y a plus de grands intellectuels aujourd'hui, parce que les grands intellectuels qu'on avait à cette époque-là, les années 70, pour ça, je ne dis pas que c'était mieux avant sur tous les plans. C'était mieux avant sur le plan du personnel politique, certainement. Mais sur le plan des idées, des intellectuels, c'était beaucoup moins bien avant. Parce que pourquoi? Regardez aujourd'hui, les grands intellectuels, c'est Elisabeth Badinter. C'est un personnage absolument remarquable. Elle passe sa vie à la bibliothèque de France dans les trucs. Elle sort des bouquins absolument inattendus après avoir travaillé. Un personnage comme Jacques Julliard, Enfin, on peut citer comme ça, il y en a beaucoup. Jean-Claude Michéa, qui est moins connu, mais qui est un grand philosophe. Enfin, bon, ce sont des grands intellectuels. La différence qu'ils ont avec nos intellectuels des années 70, c'est qu'ils n'appellent pas au meurtre à longueur de page, qui sont pas maoïstes et qui défendent pas des régimes abjects. Quand même, vous voyez, tous ces gens, qu'est-ce que c'est le maoïsme? C'est Mao est le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité. Faut arrêter, faut pas tourner autour du pot. 70 millions de morts, des famines organisées. Vous me direz, Staline aussi, il a fait les Staline, il a fait des famines organisées contre les Ukrainiens. L'Holodomor, on sait pas si c'est 3, 4, 5 millions de morts ukrainiens, morts de faim. On avait mis des fils de fer barbelés autour du pays pour que personne ne puisse sortir parce qu'il y avait des révoltes paysannes, etc. Bon, on les a affamés alors qu'ils produisaient du blé, mais leur blé, on l'a exporté et comme ça, ils ont crevé de faim. Bon, donc, Mao, qui est un Staline, pardon, qui est un infâme criminel contre l'humanité, est dépassé de loin par Mao Tse-tung. Comment ces gens qui ont visité la Chine, qui sont allés qui soi-disant ont pu voir ce qui se passait dans le pays, comment ne sont-ils doutés de rien? Je parle de nos grands intellectuels de l'époque. Je ne mets pas Foucault dans l'eau parce que lui, il a dit beaucoup de conneries sur l'Iran, mais pas sur la Chine.
Mais vous dites qu'il a pas trop de sang sur les mains.
Pas trop, ouais, c'est ça. Un peu, pas beaucoup, pas beaucoup. Mais Sartre, il faut bien voir. C'est un point très important. Sartre, il fait la préface d'un livre qui a un peu le manuel des décolonisateurs. Le manuel de la décolonisation, c'est Les damnés de la Terre de Frantz Fanon, écrivain noir, qui fait un livre. Bon, quand il est en train de mourir, c'est son dernier livre. Il va mourir. Il est sur son lit de mort, d'ailleurs. Quand on lui montre la préface de Sartre, Sartre, dans ce livre, appelle au meurtre. C'est-à-dire, si vous voyez un colon, tuez-le. C'est ça dans ce livre. Le pauvre auteur est complètement désemparé et se dit, mais c'est pas sa pensée. Les damnés de la Terre, c'est un livre pour la décolonisation, mais c'est pas un appel au meurtre. Il appelle pas à tuer le pauvre Frantz Fanon. Et il s'en ouvre d'ailleurs aux uns aux autres. Il dit, il faudra que je fasse une réponse, et puis de toute façon, il est mort. Mais c'est ça quand même, Sartre. C'est Sartre, et c'est la même chose, Althusser. D'où Althusser, de toute façon, il a tué sa femme. Et alors, dans les milieux intellectuels, on disait le pauvre. Évidemment, elle a voulu le quitter, donc il l'a étranglé. Mais c'est pas sa faute, parce qu'il allait régulièrement en psychiatrie, le pauvre. Vous voyez, donc ça a été toujours le pauvre Althusser. Mais c'était ça, les intellectuels de l'époque. Moi, j'ai aucun respect pour ces gens. Aucun. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand je disais pourquoi, je me suis rendu compte, parce que c'est deux, trois personnes qui me l'ont dit, il y a encore une hier. Ah, enfin la vérité. C'est-à-dire des gens qui avaient envie qu'enfin on dise ça. Mais c'est la vérité. Sartre est un escroc intellectuel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'œuvre. Enfin, attendez, il fallait lire parce qu'il était... Bon, après avoir pas collaboré, mais enfin, un peu, quand même. Enfin, c'était un peu compliqué, quand même, parce que j'avais oublié que Sacha Guitry, auteur de pièces absolument magnifiques, a fait quelques jours de prison, quelques dizaines de jours de prison, pas très long, quand même. Après la guerre, parce que effectivement, une de ses pièces, j'oublie laquelle, avait été jouée devant la Wehrmacht et qu'il y avait une photo de lui en train de trinquer au champagne avec des officiers de la Wehrmacht.
Alors que Huis Clos est monté au théâtre du Vieux Comité.
Alors, les mouches, notamment, oui. Les mouches, c'était au théâtre Sarah Bernhardt qui a été évidemment rebaptisé parce que Bernard, c'est un nom juif, donc on a appelé ça différemment. Mais les mouches, par exemple, il y a un comité de censure qui lit les mouches, comité de censure allemand, ça passe, et évidemment, les mouches est joué devant la Wehrmacht, devant des officiers de la Wehrmacht, comme. Et il y a évidemment un pot dans ces cas-là parce qu'on les soigne. Et Sartre, évidemment, n'a pas été pris en photo. Dieu merci pour lui. Mais bon, ce monsieur, après la guerre, tout de suite, il est très à gauche parce que c'est la meilleure façon de se protéger quand on risque quand même, à l'époque, rigoler pas trop à la libération. Donc, il se met une protection qui est le Parti communiste et il se met parmi les accusateurs. C'est-à-dire, il est dans la bande de s'appelle un comité d'épuration qui va épurer les autres. Et lui, comme il est épurateur, évidemment, il ne sera pas épuré. Mais comme il a été ensuite toujours à la gauche de la gauche, mais très à gauche, et dans le genre appel au meurtre, sans grand succès, parce que l'extrême gauche française a beaucoup moins tué que les, enfin pratiquement pas tué, une personne ou deux.
En Allemagne ou qu'en Italie, surtout en Italie.
Mais c'était vraiment en Italie, c'était c'est en centaines de personnes. Et puis en Allemagne, c'est aussi presque, enfin en disant plusieurs dizaines et dizaines de personnes. Et nous, c'est très peu. Donc ils n'ont, Dieu merci, ils n'ont pas été suivis. Mais pour, juste pour terminer sur Sartre, quand je dis mauvais romancier, mais qui lit aujourd'hui ses bouquins? Mais qui lit la nausée?
Vous dites que son seul bouquin correct, c'est Les Mots.
Ah, Les Mots, qui est magnifique. Non, non, je ne dirais pas qu'il est, qu'il est... Non, c'est son livre. C'est un très grand livre. Moi, je trouve que c'est un très grand livre. Je ne veux pas du tout dire le contraire. C'est un très grand livre. Il paraît d'ailleurs, il y avait un livre de Bernard-Henri Lévy sur Jean-Paul Sartre, une biographie, où il disait « Tous ceux qui aiment Les Mots n'aiment pas Sartre ». Eh ben, j'en fais partie, puisque j'aime pas Sartre, mais c'est vrai que j'adore Les Mots, qui est pour moi un très beau livre. C'est un récit d'enfance, il raconte, voilà, son enfance, il dit un peu de mal de son, trop de mal de son grand-père, mais bon, c'est comme ça.
Il y a un autre personnage que vous dites qui vous a extrêmement impressionné, vite avec Jacques Cometti, c'est celui qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est Solzhenitsyn. Et quand on a en mémoire ce qui s'est passé avec l'archipel du Goulag, l'édition de ce livre, c'est absolument incroyable. C'est même en soi un polar, puisque je rappelle quand même, s'il y en a qui ne connaissent pas, que le manuscrit a été sorti en version russe, hein. Il fallait trouver une imprimerie à Paris qui avait encore des cases de caractère cyrillique, et c'est l'imprimerie Beresniak, c'est-à-dire en fait la famille maternelle de Goscinny, hein, qui imprime le livre en russe avant que ça soit traduit en français. Mais le choc intellectuel de l'archipel du Goulag, c'est presque un tsunami dans les années 70.
Mais attention, Solzhenitsyn était déjà un bon écrivain avant.
Oui, il a le prix Nobel en 70.
Ouais, mon père, qui est artiste peintre, je me souviens, c'est quelqu'un qui lit énormément. Et souvent, j'ai très mauvaise relation avec lui, j'ai raconté ça dans un bouquin, mais je lui prends les livres, j'emprunte les livres que je remets après. Et je me souviens avoir lu comme ça, bien une avant, journée Une journée des Vinovitch, qui est un très beau livre, et Le pavillon des cancéreux, qui est également un très bon livre. Donc, c'est un très bon écrivain. Mais c'est vrai, quand je dis ça, c'est parce que c'est quelqu'un... Moi, je fais partie des gens, j'ai rencontré plein de personnalités importantes. Bon, il y avait des gens qui étaient un peu fascinants, comme Helmut Kohl, mais il ne faut pas exagérer, ou des gens un peu brutaux, par exemple, Solzhenitsyn, qui m'a plaqué au mur un jour, parce que... J'étais un peu trop long, je posais une question, il m'avait dit l'interview est terminée, je repose une question et il me pousse. Oh, bon, il était peut-être parce qu'il abusait beaucoup. Mais je dois dire, la personne, si je réfléchis bien, qui m'a le plus impressionné, de loin, en dehors de Giacometti quand j'étais gosse, que j'ai rencontré plusieurs reprises quand j'étais jeune, ado en tout cas, c'est vraiment Solzhenitsyn qui est venu chez moi. Donc j'ai eu l'occasion, on est resté, on a pris un café, on n'est pas venu déjeuner ou dîner, il était avec sa femme, un traducteur bien entendu, et j'ai trouvé cet homme fascinant par sa modestie, cette espèce de douceur et de violence, enfin en même temps, vous voyez, quand je dis feu, glace, enfin il y a tout en même temps, quoi. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui dit, mais qui est en même temps modeste comme ça, qui parle doucement. Vous voyez, il n'est pas dans la colère. Vous voyez, il n'est pas dans l'éruption.
Il y en a un autre dont on ne peut pas dire qu'il est à la fois glace et feu, mais c'est quand même très particulier. C'est le deuxième président de la séquence. C'est Giscard. Alors, vous avez une évocation de Giscard qui est absolument passionnante. Là encore, je me permets de vous lire. Hein. Il est si intelligent qu'il peut parfois en devenir idiot. Il n'a pas compris les ressorts des humains. Une très belle expression, hein. On y reviendra sur vos mots, parce que c'est un vrai bonheur. Giscard, dites-vous, est un hors-venu. Il est au genre humain ce que le poulpe est au genre animal. Alors, je laisse le lecteur comprendre ce que ça veut dire.
C'est très simple, attendez, c'est que le poulpe est le seul... C'est pour ça qu'il y a des travaux scientifiques très sérieux qui disent il ne peut pas venir de la Terre, donc c'est forcément ça vient des extraterrestres, vu que le poulpe est le seul animal sur la Terre qui n'a pas de système nerveux central.
Voilà. C'est un système internet. En fait, il a des neurones partout.
C'est-à-dire, il y a des neurones dans les tentacules. Enfin, c'est incompréhensible.
Giscard avait des neurones.
Donc, il y en a partout.
Giscard avait des neurones partout.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les scientifiques vous disent, bah, tiens, Jean-Didier Vincent, qui est un Bordelais, c'est lui qui m'a appris ça la première fois. D'ailleurs, après, j'ai cessé de manger du poulpe. C'était il y a très longtemps. Donc, je ne mange pas de poulpe depuis très, très longtemps. Il m'a dit, tu sais, Heureusement qu'il meurt au bout de 5 ans, parce que l'espérance de vie du poulpe ne dépasse pas 5 ans. Parce qu'avec son système nerveux, justement, il apprend tout tellement vite. Il emmagasine que, déjà, quand il meurt, on dit qu'il a l'âge, il a l'intelligence d'un enfant de 5 ans, peut-être 4 ans. Enfin, vous voyez, il commence déjà, ça va très vite. Et il dit, mais quelle horreur si le poulpe vivait 30 ans ou 40 ans. Là, c'est la fin de l'humanité. Il prend le contrôle de la planète. Je me souviens très bien. C'était très sérieux. C'était pas pour. Voyez, et donc les scientifiques très sérieux qui ont dit mais non, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas venir de la Terre. C'est un truc. Ce n'est pas normal. Ce qui laisse d'ailleurs penser que s'il y a des vies extraterrestres, on peut tomber sur des numéros particuliers parce que le poulpe, c'est ça. Et donc, quand je dis ça, c'est pas non plus méchant sur Giscard. Toujours, Giscard est quand même très très intelligent. Attendez, je suis pas en train de dire Giscard, c'est. Quelqu'un d'extrêmement brillant qui se souvient de tous les chiffres, qui va vite.
Oui, mais pardon, je vous coupe, hein, François-Olivier. Mais vous dites aussi, ces blagues tombent presque toujours à plat, ce qui ne l'empêche pas de récidiver à la consternation de ses amis. Et puis vous dites, philosophiquement, Giscard est une synthèse entre De Gaulle, l'homme de foi du passé, et Pompidou, l'hédoniste matérialiste de son temps. Alors il y a un épisode qui est absolument extraordinaire. Je le dis en quelques mots. Giscard a un échange avec Jean Cérizet, qui était un de ses principaux conseillers politiques. Il publie un livre qui s'appelle « Démocratie française », sous-titré « Deux Français sur trois », puisque c'est sa grande idée, qui va présider d'ailleurs à la création de l'UDF. Hein. Et il a cette idée tout à fait étonnante de dédicacer ou de dédier ce livre à Léon Trotsky. Alors, vous dites, parfois il était braque. Hein. Vous posez la question, est-ce qu'il n'était pas braque?
Non, ça
montre que Cérizet dit oui, mais sans moi. Mais qu'est-ce qui
oui, Cérizet, heureusement, Cérizet lui dit, mais non, mais ne faites pas ça, c'est horrible. Bah, pour une raison simple, c'est que Trotsky, bon, je sais, il y a des gens en France qui adorent Trotsky.
Mais même Mélenchon n'a jamais, je crois, osé dédicacer un de ses bouquins à Trotsky.
Oui, parce que Trotsky, il est c'est l'inventeur du goulag, c'est assez emmerdant, vous voyez. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de trotskistes en France, je sais pas comment c'est possible. Enfin, nous, on a des choses très étranges dans ce pays, donc nous avons des petites pépinières de trotskistes comme ça qui survivent en racontant des conneries depuis longtemps. Mais ça, j'ai jamais compris comment ça pouvait tenir. Mais le trotskisme, il faut pas oublier la base. Enfin, bon, Trotsky est sûrement l'un des plus brillants. Parmi les bolcheviks, pas le seul, parce qu'il y en a beaucoup. Les bolcheviks, Lénine lui-même était un personnage très intelligent, mais c'est un grand pervers. Et faut pas oublier que c'est lui qui commence avec le goulag et que le trotskisme, dans son essence même, est quelque chose de très flic. D'ailleurs, il y a cette bonne formule que certains appliquent à des journalistes trotskistes que je ne citerai pas. Je passe à lire ma bouche à ce temps-là, mais c'est. Trotskiste un jour, flic toujours. Voilà, c'est une très bonne formule.
Y compris quand on a été directeur de la rédaction du Monde.
Par exemple, voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Giscard, qui vous fait quand même vous interroger sur ce côté étonnant, quoi, différent. Est-ce que sa présidence est marquée par
ça? Non, mais tout, c'est-à-dire, il y a des bonnes décisions. C'est-à-dire que Giscard, il faut bien voir. Vous avez dans cette séquence que je raconte, qui dure 11 ans, le troisième tome, ce sera le dernier. Il va couvrir 40 ans. Donc, il se passe plein de choses pendant ces 11 ans. Si je voulais faire un tome entier, c'est parce que c'est une période absolument passionnante. Et Giscard, il sait gouverner. Je dirais pas ça, par exemple, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui gouverne.
Il a beaucoup observé De Gaulle, dit-il.
Et voilà, c'est ça que j'allais dire. Il me l'a enlevé de la bouche.
Non, du tout.
C'est que De Gaulle, c'est un modèle pour Giscard. Il a été, il faut pas oublier, 4 ans, ministre des Finances, le reste du temps secrétaire d'État. Mais enfin, il a vu De Gaulle tout le temps. Mm-hmm. Comme ministre des Finances, il a vu une fois par semaine. Si vous faites les voyez, donc si vous allongez les heures, c'est très. Et il s'est vraiment calqué sur De Gaulle. Et même s'il n'est pas gaulliste, de foi gaulliste, mais qu'est-ce que c'est que le gaulliste, personnellement, je ne sais pas trop. Pour moi, c'est plutôt une pratique du pouvoir. Ce n'est pas trop une idéologie, parce que De Gaulle, il change de pied, il change d'avis, vous voyez. Il était... Attendez, l'Europe, quand on dit qu'il était anti-européen, mais il faut être con et inculte pour dire ça. De Gaulle, c'est lui qui fait, dès 1958, le rapprochement franco-allemand, avec Adenauer, alors que sa femme est hystérique et en colère, que les deux servantes disent « Ah ben non, nous, on se barre, on va rien faire de tout ça, parce qu'on va pas recevoir un Bosch. » C'est vrai que ça tombe mal, il y en a une qui est alsacienne, l'autre lorraine.
Que la frontière
elle veut pas, elle veut pas recevoir
la frontière pas très
le
loin
Bosch.
Non plus,
mais lui insiste, il veut faire, et pourquoi? Parce qu'il veut faire l'Europe après, derrière. Et il l'a fait, puis il va en Allemagne partout, il apprend ses discours en allemand, il parle en allemand, etc. C'est-à-dire... Oui, bon, et de Gaulle, il change de pied, il change d'avis, et c'est ça le gaullisme. C'est ça, là, d'ailleurs, la force du gaullisme. Mais c'est une pratique du pouvoir. C'est-à-dire, quand on veut, on fait. Hein, quand on dit on veut, ou quand on veut, on dit, et après on fait. Et ça, c'est une espèce. Et c'est ça démarche tout au long de. Et c'est ça qui est absolument.
Et ça, on le retrouve chez Giscard, vous dites.
On le retrouve chez Giscard, parce que, d'abord, dans la pratique du pouvoir aussi, il y a autre chose chez de Gaulle, c'est le recul. Je prends du recul. Ouais. C'est vraiment l'application de la Ve République. J'ai un Premier ministre qui a du pouvoir. D'ailleurs, Chirac a du pouvoir. Il fait un peu ce qu'il veut, pas tout à fait, parce que Giscard l'emmerde beaucoup, mais quand même, il a plus de marge de manœuvre que la pauvre Borne aujourd'hui, ou que Castex avant, ou que bien d'autres. Enfin, je veux dire, il est vraiment autonome. Comme, alors, Barre, j'en parle pas. Barre, il a son caractère. Hein. Barre, il ne marche pas sur les pieds. Et d'ailleurs, Giscard faisait pas ce qu'il voulait avec Barre. En plus, Barre était assez populaire à un moment donné, pas toujours très populaire, mais parfois il redevenait très populaire. Donc d'ailleurs, il a gagné les élections législatives de 1978, que en principe la droite devait perdre. Bon, ben il a gagné.
Ah, c'est aussi donc, la gauche qui les a perdus. Hein.
Oui, mais enfin, je pense que il a joué un rôle dans victoire très fort, notamment en assommant le pauvre Mitterrand dans un célèbre débat où Mitterrand était complètement en miettes après ce débat. Donc, je pense que Giscard, c'est ça dans le gaullisme, c'est-à-dire le recul. Je laisse le Premier ministre gouverner, moi je préside, c'est-à-dire je m'en vais, je laisse du temps, je réfléchis. Je me balade en forêt, ce que faisait beaucoup de Gaulle, Giscard aussi, il adorait se promener en forêt. En général, c'était pour chasser, enfin pour préparer sa prochaine chasse ou sa prochaine tuerie, vous dire. Mais où parfois il allait aussi en Afrique chasser l'éléphant, ce qui est pas terrible, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Quand il chassait pas le tigre, enfin une scène que j'en
raconte, c'est rigolote.
Mais donc là, mais
le tigre de l'amour de Sibérie. Hein.
Ouais, il prend du recul, il prend du recul. Et puis il décide, si vous voulez. La période des années 70, c'est passionnant parce que la France, c'est vrai, a une croissance de dingue en 1971, 72, 73. Il y a même une période où, sur un an, en calculant bien, vous arrivez à 7% de croissance, ce qui est complètement dingue. Mais arrive le premier choc pétrolier en 1973, premier choc pétrolier, le baril qui multiplie par 4. Enfin, c'est l'horreur, c'est la fin du monde. Ça n'a rien à voir avec la roupie de Sansonnet que nous vivons aujourd'hui. C'est un truc, c'est incroyable ce qui se passe. Et bien là, il prend la décision. C'est-à-dire, il fait cette espèce de grand tournant nucléaire, comme ça, il décide, il tranche, il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et même chose, après, nouveau choc pétrolier en 1979, rebolote, il recommence de la même façon. Donc, alors, qu'est-ce qui va pas? Vous avez 1000 exemples, on peut citer plein de trucs, mais je trouve peut-être le plus intéressant, c'est l'histoire des diamants. Comment? Bon, les diamants, c'est pas terrible. Il a fait ça des gonzesses. Bon. Mais c'est pas du trafic, c'était des trucs, ça valait pas grand chose, mais il les a donnés à des copines. Bon, c'est pas terrible à expliquer, mais vous pouvez le peut-être pas le dire comme ça, mais enfin, il y avait une façon de s'expliquer. Il l'a pas fait, silence. Donc, tout le monde a cru que c'était un gros trafiquant de diamants qu'il en avait eu, que en plus tout ça a été. Raconté par Bokassa, qu'il avait d'ailleurs viré, parce que c'est la vengeance de Bokassa, parce que Bokassa avait été viré par la France, faut pas oublier, parce que c'était un maboule complet, d'ailleurs. De Gaulle l'avait bien vu dès le départ, dès qu'il était arrivé. Et donc, de Bokassa viré, bah, il balance partout qu'il a donné plein de diamants à Giscard. Incapable de s'expliquer, c'est-à-dire, on répond pas à ces choses-là. Ce qui est hallucinant, c'est-à-dire, on est en démocratie. En démocratie, on répond à ces choses-là. Sinon, on est battu. D'ailleurs, il a été battu de peu, mais je pense qu'il n'aurait pas été battu si c'était expliqué sur les diamants. On va, voilà, on essaie de faire pitié un peu, ce qu'a très bien fait Clinton, faut pas oublier. Le peuple américain qui déteste les menteurs, Il a menti au peuple américain. Il a dit qu'il n'avait jamais eu de relation avec Monica Lewinsky. Et là, vous savez l'histoire de la... Bon, vous connaissez l'histoire. Bon. Et quand même, il a juré sur la Bible. C'est horrible du point de vue américain. On se dit, il va sauter. Mais non, parce qu'il essaie d'apitoyer le peuple. Il réussit à pitoyer parce qu'il va gagner les midterms, les élections de midterms que Biden a plus ou moins, enfin, a perdu moins que prévu, puisqu'il a... Il a quand même perdu la Chambre des représentants, qui est quand même, c'est un peu embêtant. Mais
on va terminer sur deux personnages,
oui, je vous en prie.
parce que y a le temps qui passe, hélas. Hein. Ah, oui. Alors sur Chirac, je vous cite parce que ça c'est extraordinaire. Chirac, vous partagez un premier repas avec lui. Au bout d'un moment, c'est dans un restaurant sur le lac de Bord-les-Orgues. Vous avez jamais vu un type qui finissait aussi vite son assiette. Vous êtes complètement, scotché. Alors lui, il découvre que vous êtes végétarien. Ça lui paraît très bizarre. Il s'inquiète pour votre santé. D'ailleurs, il se demande si vous n'avez pas des carences. Et puis, vous allez vous réconcilier. Vous allez vous réconcilier. C'est pas fini. Sur le plateau de fromage, parce que vous êtes vous un fou de fromage et Chirac aussi. Vous aimez beaucoup les fromages qui puent. Vous d'ailleurs, hein. Moi, vous offrez du maroilles. Bon. Sur Chirac, vous
Bordelais,
dites...
vous n'êtes pas trop là-dessus. Hein.
Non, mais moi, je suis bon.
Faut aller dans le nord, au lait camembert aussi.
Oui, mais je suis pas bordelais.
Avec Onfray, on peut se faire un camembert chacun. Vous
savez. Alors, sur Chirac, attendez. Au perché, les narines
c'est
à l'affût.
C'est pas bon pour le cholestérol, mais bon.
Chirac, page 197. Au perché, les narines à l'affût, prêt à avaler la mer, les poissons, les bigorneaux. Il haletait comme un chien, galopait comme un cheval, copulait comme un lapin, s'empiffrait comme un cochon. Tout lui faisait ventre, belle expression traditionnelle, mais vous dites de Chirac comme de Pompidou et comme de Hollande que ce sont les trois présidents les moins narcissiques de la Ve République. Et ce qui est passionnant, c'est que vous dites que Chirac ne s'aimait pas, et vous avez même un intertitre, vous dites Chirac, l'homme qui veut être quelqu'un d'autre. Pourquoi il s'aimait pas, Chirac?
Alors, y a Éric Zemmour qui a écrit il y a quelques années un livre justement avec ce titre. Et comme j'avais beaucoup écrit sur Chirac, que je pensais écrire une suite, évidemment, à un moment donné, je me souviens quand ce livre était sorti, j'étais vraiment Marie, vous savez, comme quand on vous retire une idée que vous aviez. Parce que c'est vrai que j'avais pensé à ce titre. Parce que je trouve que ça résume très bien. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est sûr, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Il disait souvent qu'il était con.
Il comprenait pas comment il pouvait avoir un certain nombre de conquêtes féminines, par exemple.
Oui, c'est sûr. Il se trouvait moche. Il se trouvait moche. D'où ça vient, je pense, c'est l'enfance. Est-ce qu'il a été autant aimé par sa mère que moi-même? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose en lui. Mais alors, Chirac, oui, contrairement à Mitterrand, c'était impossible de rentrer dans sa vie, dans sa petite sphère privée.
Ah, oui.
Impossible. Tout se fermait brusquement. Hop, et puis c'était fini. Alors que Mitterrand, il pouvait parler un peu de sa vie privée, de son enfance, même s'il m'a raconté des cracks sur ses jeunesses étudiantes, où soi-disant il était de gauche, mais ça, il m'a raconté ça dans les années 70. Enfin, il pouvait raconter des confidences ou sur ses parents. Chirac, absolument rien. Mais Chirac, je pense, alors il y a le côté évidemment énarque qui veut se faire passer pour un imbécile. Enfin, ça existe ça aussi. J'ai vu ça souvent. Il y a beaucoup de politiques, de grands politiques qui essaient de passer pour des imbéciles. C'était le cas de Reagan. Très clairement, Ronald Reagan.
Il vous en parlait très bien dans la séquence américaine.
Ça explique son incroyable popularité. Il jouait au con. Oui. Je pense qu'il se trouvait peut-être con. Et de toute façon, il n'avait rien à foutre. Lui, il était, on décide de ça, on va le faire. Enfin, c'était très comme ça, très, très premier degré. Je pense que Chirac, lui, il y avait quelque chose de plus profond, de cassé à l'intérieur. Sans doute un épisode psychologique, quelque chose qu'il avait ébranlé, dont il parlait jamais, quoi, c'est clair. Donc voilà, c'est quelqu'un, mais ça en politique c'est assez rare, mais ça arrive.
Alors on termine sur
l'antisémitisme. Et vous savez, oui. Je dirais, moi je suis toujours frappé aussi par les hommes politiques qui essayent d'avoir l'air inculte quand ils sont cultivés. Par exemple, Chirac était très cultivé sur les civilisations. Il pouvait faire des cours sur la Chine, sur le Japon, sur sa passion pour Saddam Hussein. C'était évidemment Bagdad. C'était pas l'Irak de d'alors. C'était les civilisations. Il allait dans les musées. Il trifouillait partout. Il revenait avec des papiers, des bouquins, des notes. Il avait beaucoup lu. Moi, c'est une scène qui m'a beaucoup frappé. Un jour, j'écrivais un livre sur. C'est un bouquin philosophique qui s'appelle. Le huitième prophète, c'était les aventures extraordinaires d'Ambrose le Celte. C'est l'histoire d'un Celte. C'est au 6e siècle avant Jésus-Christ. J'avais découvert par hasard, en lisant un livre de d'Arnon Toynbee, qu'au 6e siècle, en fait, tous les grands prophètes apparaissent en même temps. Sur, par le Christ, bien sûr, qui va arriver plus tard, ni Moïse qui était là avant. Mais en sont ensemble, donc, Bouddha, Lao Tzu, Confucius, Pythagore, qui est le premier philosophe, en fait, de l'histoire de l'humanité, premier philosophe. Enfin, bon, bref, il y en a 6 ou 7. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et un jour, j'avais un rendez-vous avec lui un dimanche, et il m'appelle pour annuler le rendez-vous. Je crois que le secrétaire d'État américain était de passage, et c'était au dernier moment comme ça. Et bon, il fait un peu la conversation, et visiblement, il n'a rien à foutre. Et il me dit, c'est pas vrai, c'est une blague. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis, j'écris en ce moment chapitre sur. Enfin, je raconte brièvement mon truc. Et je lui dis, c'est un des prophètes que j'ai pas cité. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur Zarathoustra. C'est quand même un petit peu calé, Zarathoustra. Vous voyez, c'est pas. Tout le monde n'a pas lu. Et il me dit, est-ce que vous avez lu ça? J'en avais lu déjà 2 ou 3. Ah non? Ah, très bien, je note. Et celui-là, qui est très bon, là, sur Zarathoustra, donc il me donne 2 bouquins, 2 livres que j'ai, qui étaient difficiles à trouver et que j'ai fini par retrouver, en me disant, mais il y a tout là-dedans, c'est formidable, etc., en me donnant la petite, presque une petite fiche de lecture et en me racontant les auteurs. Donc c'était ça, Chirac, on n'en croirait pas. Il a l'air, comme ça, complètement inculte, abruti, buveur de bière, de rhum, etc. Mais non, il y avait cette dimension-là qui était absolument fascinante et qu'il cachait.
Oui. Alors, l'anti-Chirac, quelque part, évidemment, c'est Mitterrand, ça sera, je pense, vraiment au cœur du troisième tome. Mais là, toute la période est passionnante, puisque à partir du congrès d'Épinay de juin 71 jusqu'à 80, jusqu'au 10 mai 81, vous suivez, j'allais dire, vous dites, je suis le caniche Mitterrand. Alors, après, vous fâchez avec lui à partir de 77, hein, c'est quasiment là, vous êtes blacklisté, comme on dit, ça va revenir près de 10 ans plus tard, si j'ai bien compris, à peu près plus que ça, bon. Vous dites de Mitterrand, c'est l'Houdini de la conciliation. Hein, et quand Jean Coe, que vous citez souvent dans les croquis de mémoire, le compare à un chrétien démodé du 19e siècle, vous dites non, non, Mitterrand n'est même pas prisonnier de ce personnage-là. On sent qu'il a beaucoup d'autres costumes en réserve, qu'il peut enfiler à tout moment, si besoin, le pâtre rustique, le tribun lamartinien, le moine soldat et le français de souche. Alors, on va terminer sur les fromages. Vous le comparez à la jonchée, fromage charentais. Alors, il était charentais. Je décris la jonchée. Hein. Vous dites que ça ressemble à un phallus.
C'est ça la principale.
De 20 cm.
Je dis pas que ça ressemble. C'est pratiquement c'est un phallus
en fromage. C'est un phallus de 20 cm de long. Alors, on voit peut-être le rapprochement avec Mitterrand. Moi, j'en sais rien. Mais,
je pense pas. Non, il avait pas cette réputation.
Peu importe. Mais. Pourquoi
Chirac non plus, là, de ce point de vue, c'était.
Oui. Pourquoi est-ce que vous dites
que c'était pas des
vous dites
grands,
que Mitterrand
c'était pas des grands professionnels.
Vous dites que Mitterrand préférait l'escalier. Vous dites qu'il préférait l'escalier, Mitterrand.
Oui.
Mais pardon.
Je pense que ça l'emmerdait après. Oui. Ensuite, l'emmerdait. Bon. Mais monter l'escalier, c'était exactement le grand moment.
Par contre, qu'est-ce qu'il y avait d'onctueux chez Mitterrand? Parce que je crois que la jonchée est un fromage assez onctueux. Non
écoutez, la douceur, la voix. La voix chantante,
très 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 basse,
le truc toujours basse, etc. Alors il y avait un truc qu'il avait appris d'ailleurs dans les, il disait les conférences ou les discours quand il y a un peu de bruit pour faire imposer le silence, vous parlez très doucement. Donc si ça c'est des trucs, Mitterrand m'a appris tellement de trucs. Si quelques personnes au fond avaient commencé à parler entre elles, merci de ne l'avoir pas fait. J'aurais sans doute commencé à parler un peu plus doucement comme ça. Et on voit que tout de suite ça s'arrête. Et ça, Mitterrand le faisait systématiquement, parce que vous savez, dans les grands meetings avant les campagnes électorales, il y a toujours une atmosphère un peu comme dans les églises orthodoxes, c'est-à-dire ça rentre, ça sort, il y a du bruit, tout le monde s'en fout, etc. Et là, donc, pour imposer le silence, silence, les gens écoutent, et là, à ce moment-là, il parlait, comme le dit très bien Jean Coe, ça montait, puis mais c'était, puis de temps en temps, boum, il redescendait, vous voyez, avec de l'humour, des phases, des colères. Enfin, c'était très travaillé, quoi. C'était un grand orateur.
Alors, point commun avec Mitterrand, si je puis dire, du point de vue du style.
Alors que Chirac était un très mauvais orateur.
Voilà, du style et des mots. Les mots de Fogg, on va pas les détailler, la fruition, un grimpion, à l'avant-vol, une malaventure, se ramentevoir, faire la chaussette, un frivolé, s'esbigner. Vous esbignez avec femme et enfant aux États-Unis. Le président sortant, Giscard, le 19 mai 81, à la fin de ce fameux discours ponctué par, terminé par « au revoir », le président sortant, c'est le cas de le dire, s'est ensuite esbigné par la porte du salon de l'Élysée. Et vous citez votre papa, avec qui vous avez dit que vous aviez des relations qui étaient compliquées, mais que vous avez retrouvées, j'allais dire,
quand il est mort. Oui. J'ai attendu qu'il meure, en fait, ce qui n'est pas très bien. Mais...
Votre papa vous
c'est
dit...
pour ça que j'ai écrit L'Américain, qui était un livre où je tente de réconciliation posthume, comme je dis.
Nous passons nos journées, dit votre papa, à marcher sur les corps et les morts de nos ancêtres. Notre devoir est de leur redonner vie. Je suis sûr que le tome 3 redonnera vie à la 5e République. Je pense qu'on peut applaudir François-Olivier Gisbert avec beaucoup de joie.